Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, je vais mettre mes feuilles dans l'ordre, tiens, pour commencer, mercredi 27 septembre, il est 8h30, et au programme de cette matinale, nous sommes en studio avec Maël, Eden, Achille et Laïs, bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous commencez cette année à l'Institut Agro, bah, c'est parti, et pour commencer, vous êtes parti à la découverte de ces territoires sous différents prismes, d'où vous êtes, d'où vous venez, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez retenu de ce début à Sup Agro et sur notre fabuleux territoire, bah, on en parle avec vous tout à l'heure, et en deuxième partie d'émission, Léo est allé visiter les nouveaux ateliers Tufri. On écoutera ça en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab et on y va pour l'édito. Je suis très énervé.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. La lutte contre les violences faites aux femmes est-elle toujours la grande cause du quinquennat ? Bah, la situation actuelle des femmes qui demandent une mise en sécurité permet d'en douter et les féminicides continuent inlassablement. Il y a depuis cet été un nouveau phénomène que les associations qui s'occupent des femmes en danger dénoncent. Des femmes victimes de violences sont privées d'hébergement d'urgence. Partout en France, la situation s'est tendue au cours de l'été. Des consignes très claires ont été données au préfet pour réduire le nombre de places avec un tri des vulnérabilités. C'est ce qu'explique Nathalie Latour, déléguée générale de la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité. Elle continue en disant « Nous avons eu un été catastrophique ». Et oui, ainsi les préfectures prennent ces décisions catégorisant le niveau de violence auquel la victime a affaire et décident si oui ou non cette dernière a le droit ou non à un hébergement. C'est totalement arbitraire. Je vous mets tout à l'heure sur notre site l'article de Mediapart qui dénonce ces faits. Par définition, les violences comprennent, je cite, les agressions, les menaces ou contraintes verbales, physiques, sexuelles qui portent atteinte à l'intégrité de la femme et ça ne se compare pas. Une violence est une violence. Encore une fois, et je ne les compte plus, nous avons droit tous les ans à la rengaine, nous allons éradiquer les violences faites aux femmes et sur le terrain, rien. Au 14 septembre de cette année, on dénombrait 91 féminicides, ce mot m'écorche les lèvres, depuis le début de l'année. Révoltant. He hit me, and it felt like a kiss. He hit me, but it didn't hurt me. He couldn't stand to hear me say that I'd been with someone new. And when I told him I had been untrue, he hit me, and it felt like a kiss. Les Crystals, he hit me. Même pas besoin de traduire. Allez, on va détendre un peu l'atmosphère quand même. Hein. On est bien en plateau, de retour en direct sur Radio Barthas avec Laïs, Eden, Maël et Achille. Alors ça y est, l'année étudiante a commencé. Vous êtes allés sur le terrain et pour débuter cette émission, on va apprendre à vous connaître d'abord. Parlez-nous de vous en quelques mots, d'où vous venez, ce qui vous a amené à l'Institut Agro. Allez, honneur à toi Laïs.
Bah, bonjour à tous. Donc moi, je viens de Normandie de base, donc ça fait un petit bout quand même. Et je suis venue ici pour suivre la licence Cèdre à Florac, qui parle de coordination de projet, et c'est passionnant.
Alors moi je viens de Nantes, donc ça fait une petite trotte aussi quand même. Et ouais, c'était pareil, la coordination de projet qui m'intéressait, voulant devenir après bosser dans l'éducation à l'environnement auprès des, enfin, de tout type de public, la coordination de projet ça va de même avec, et je trouve ça hyper important de bosser dessus quoi.
Mmh. Ouais, moi c'est Maël, et du coup je viens plus de la région de l'Ain. En général les gens n'en arrivent pas à comprendre, donc je dis la région lyonnaise, au moins on arrive à s'y situer un peu. Et pareil, moi, j'ai rejoint la licence CEDRE, donc en coordination de projet dans l'éducation à l'environnement, pour voilà, avoir plus de compétences dans ce domaine, et pouvoir après trouver un métier qui me correspond un peu.
Et Achille ?
Et moi, je viens de Vendée, donc moi aussi, et ça fait une trotte. J'ai fait un peu de fac avant, et ensuite j'ai fait un BTS GPN, comme plusieurs des autres.
Alors c'est quoi GPN ?
GPN, c'est gestion et protection de la nature. C'est un BTS et c'est vraiment hyper cool, hyper intéressant. Donc il y a à la fois gestion de la nature et aussi tout un côté de valorisation, de transmettre. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu continuer en venant ici à Supagro, parce que éduquer les gens là-dessus, c'est vraiment trop important.
Tu m'étonnes, plus que jamais d'ailleurs. Allez, bah, pour celles et ceux qui ne sauraient pas comment ça se passe, expliquez-nous en quelques mots comment on intègre l'Institut Agro, ici à Florac, qui s'y colle.
Bah, allez, hein.
Allez, Laïs.
Bah, déjà, il faut remplir un petit dossier sur le site disponible, encore et toujours, je pense. Et ensuite, on passe de super entretiens avec les formateurs.
Avec des super formateurs.
Avec des super formateurs. Ce qui, pour le coup, commence, t'es un peu stressé, mais ça va. L'approche, je suis là. Ils ont réussi à me prendre, je ne sais pas comment. Mais super sympa, du coup. Ouais, entretien en présentiel. Et après, ils délibèrent. Et puis, on reçoit la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. Et...
C'est ça, c'est très rare que ça se fasse en distanciel. Hein. D'ailleurs, je salue Marc qui est en studio. Voilà, mais c'est parce qu'il faut quand même venir découvrir le territoire. Et alors, justement, parlons de la découverte de ce fabuleux territoire. C'est moche. Hein.
Oh, c'est faux. Faut pas dire ça.
C'est incroyable.
On va aller visiter les plaines de falaises et on en reparlera.
Ouais. Alors, vous avez dû aller mener une enquête de terrain pour découvrir ce fabuleux territoire. Évidemment, c'était pour rire. Moi, je ne m'en lasse pas depuis que je suis là. Sous trois prismes, si j'ai bien compris, le sentiment et l'appartenance au territoire, ses caractéristiques et la vision du développement, c'est bien ça ?
C'est ça, ouais.
Alors, concrètement, expliquez-nous, donc, est-ce que vous étiez donc dispatché un peu en groupe sur le territoire ? Expliquez-nous un peu comment vous avez travaillé, en fait.
Ouais, pour le coup, on était tous séparés, donc on est 17 dans la promo, et on a tous été séparés en petits groupes de 3 ou 4 pour aller sur différentes zones géographiques du territoire. Mm-hmm. Donc on était, il y en avait qui sont restés sur Florac, d'autres qui sont partis au pont de Montvert, c'était le cas pour Achille et Dan et moi. D'autres qui sont partis sur Cousméjean ou les gorges du Tarn. Et du coup, ouais, le but, c'était d'aller vers les habitants, qu'ils soient touristes, vraiment locaux d'ici, etc. On essaie d'avoir des profils très différents pour essayer de capter au mieux une vision globale du territoire.
Et du coup, c'était simple, parce qu'avoir une vision globale, en combien de temps ? Une semaine, vous êtes partis à peu près, c'est ça ?
Alors non, on est parti vraiment qu'une journée.
Ah, une journée.
Une journée, les rencontres.
Ah oui, c'est encore plus court.
Ah, c'est très court. Mais c'est assez dur, rien que de trouver des profils variés, c'est pas simple. Parce qu'on va trouver, nous, quand on était parti, on était au pont de Montvert, comme a dit Maël. Et rien que de trouver, on avait la chance qu'il y avait le marché. Mais à part les artisans, mais on ne voulait pas trop les déranger non plus dans leur travail, c'est compliqué. Ils sont avec les clients, on ne va pas trop non plus tout le temps leur prendre 15 minutes et les empêcher de travailler. Mais entre ces personnes-là qu'on ne pouvait pas trop déranger et les touristes qu'il y avait un peu partout, bah, c'était compliqué de vraiment trouver des locaux parce qu'ils étaient partis travailler autre part. Enfin, c'est compliqué d'avoir des profils variés en vrai. Contrairement, je pense qu'au groupe de Florac, de ce que j'ai entendu, eux ont eu beaucoup plus de simplicité à trouver, notamment grâce aux écoles qu'il y avait, au collège, et à pouvoir discuter avec tout type de profil et surtout d'âge. Et ça, c'était hyper intéressant.
Toi, Laïs, t'es partie où ?
Moi, j'ai fait Bar des Cévennes et le Pompidou. Donc,
passé par la corniche.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est magnifique
là-bas. C'était, ouais, super.
Est-ce que ça a été simple, justement, de trouver des profils différents là-haut ?
On a trouvé du monde, du moins à Bar des Cévennes, on est tombé sur plusieurs personnes qui étaient toutes très sympathiques, très cool, avec qui ça a été un plaisir de discuter. Après, au Pompidou, on est tombé sur deux personnes qu'on a pu interroger, après, pas grand monde. C'était assez vide, calme.
Le calme de bar des Cévennes, c'est sûr. Les gens du territoire ont réputation d'être assez ouverts. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est confirmé?
Ouais, carrément.
Ah, mais de fou.
Ouais, ouais. Ils nous parlaient tout de suite, ils étaient très avenants. Et puis même quand on les questionnait, ils nous disaient ça aussi. Ils nous disaient qu'ici, sur le territoire, les gens sont accueillants, les gens s'entraident. On sentait dès le début, bah, quand on a analysé ça, une sorte de force du collectif qu'il y avait ici, qu'il y a peut-être moins dans d'autres territoires, c'est clair.
Ouais, je confirme, moi qui ai la chance de travailler depuis pas mal d'années ici à la radio, c'est absolument passionnant de rencontrer des gens passionnés souvent. C'est vous qui avez interrogé entre guillemets les gens et les territoires, comment ça s'est dispatché en fait? Est-ce qu'on vous a dit toi tu vas là-bas, comment ça s'est passé?
Non, c'était assez cool. En gros, on nous a présenté les 5 territoires sur lesquels on a travaillé, puis on a été libre de choisir un petit peu. Bon, alors bien sûr, si on était 6 à choisir le même, bon, va falloir négocier un peu pour s'arranger et équilibrer les groupes. Mais non, on était assez libre d'aller où on voulait. Et puis le truc qui était intéressant aussi, c'est que je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais on ne connaissait pas du tout le territoire, donc on ne savait pas vraiment où on allait. On me disait, toi, tu vas au Mont d'Auxerre. Je fais, cool. Je sais pas ce que c'est, mais cool, le nom me tente, moi j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est décidé pour ma part, mais je pense que ouais, tout le monde ne connaissait vraiment pas trop le territoire du tout, ou alors était passé rapidement, donc c'est intéressant aussi de partir un peu dans l'inconnu.
Ouais, chacun à votre tour, on commence par Laïs. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris?
Le fait que les gens parlent aussi facilement avec des inconnus ou... Moi, chez moi, ça se passe pas, ça. On parle pas aux gens comme ça. Et j'ai trouvé ça... vraiment super de pouvoir échanger avec des personnes qu'on rencontre d'un coup sur ce qu'ils ressentent du territoire. Parce qu'au final, c'est une partie de leur vie qu'ils nous racontent. Et cette ouverture-là qu'il y a entre deux personnes qui viennent de se rencontrer, j'ai trouvé ça mais super.
T'as rencontré... qu'est-ce qu'ils te racontent, les gens, en général, ou quelle est la plus belle histoire qui t'a peut-être marqué le plus?
Alors, je dirais pas que c'est la plus belle histoire qui m'a marqué le plus, mais c'est juste la rencontre. Il y a eu deux rencontres qui, je trouve, ont été super géniales. On a rencontré un monsieur à Bar des Cévennes qui a pris son temps, il était en train de réparer son mur et tout, et il a pris le temps de nous répondre et tout, on a discuté avec lui, c'était super intéressant. Il s'est vraiment ouvert sur ce qu'il pensait du territoire, ce que lui ressentait, parce que de ce que j'ai compris, donc ouais, il est natif des Cévennes. Et c'était super intéressant et ce monsieur était tellement gentil qu'il nous a invités à aller cueillir des prunes dans son jardin. Mais classe. C'était incroyable. Et puis au Pompidou, on est tombé sur une maraîchère, donc Camille, qui nous a littéralement invités à manger à midi. Et jamais ça aurait été ça, genre chez moi.
En Normandie.
Ouais, c'est ça.
Bah, en même temps, quand tu rentreras chez toi, tu suivras cet exemple-là et t'inviteras...
Ah, mais j'essaierai. J'essaierai de fou.
Belle leçon de vie, effectivement. Eden ?
Alors nous, on a rencontré beaucoup de monde qui était hyper intéressant, mais je pense que la personne que j'ai le plus appréciée dans la discussion, je veux dire, c'était un apiculteur qu'on a rencontré sur le marché. Alors, ce qui est marrant avec ce monsieur, c'est qu'on l'a repéré de suite. Quand on est arrivé sur le marché, on a vu, il avait un smile incroyable, c'était un soleil, le gars. Et on s'est dit, lui, on veut lui parler. Mais bon, on ne l'a pas dérangé, on a attendu que le marché se finisse, puis on est allé discuter avec lui, on l'a aidé un peu à ranger son miel. Et il nous a raconté un peu toute sa vie. Alors, il venait d'ici aussi, enfin des Cévennes. Et il nous a raconté comment se marchait toute la production de son miel, pourquoi il ne voulait pas mettre une production extrêmement, large, il voulait rester sur un truc globalement petit. Il disait, il avait quoi, 200 ruches, un truc comme ça?
300,
ouais, c'est ça. Et il nous expliquait toute sa vie et tout, et c'était merveilleux. Puis toujours avec, moi je retiens encore son smile. Puis il y avait un bon t-shirt jaune aussi, ce qui rendait cette image de soleil. Mais ouais, il avait un peu un look aussi, un peu de surfeur aussi, avec cheveux longs. C'était un peu étonnant ici, je trouvais. Mais bon, non, je pense que c'est cette personne qui m'a le plus marqué dans la discussion, et bien qu'on a eu des merveilleuses rencontres après à côté aussi.
Maëlle?
Ouais, moi du coup c'est plus le rapport que toutes les personnes qu'on a vues avaient avec le territoire, parce que pour le coup on a parlé avec des locaux qui étaient là depuis très longtemps et qui du coup avaient un sentiment d'appartenance bien marqué, ce qui du coup paraît logique, mais on a aussi parlé à beaucoup de touristes qui venaient peut-être une fois par an ou des trucs comme ça, et qui avaient ce même sentiment d'appartenance. Alors peut-être un peu moins marqué, mais je trouvais ça super surprenant.
c'est mercredi matin pour tout le monde, t'inquiète, il n'y a pas de soucis.
Mais ouais, et surtout aussi le fait que toutes les personnes qui venaient ici, c'était, alors ils avaient leur raison bien à eux, mais tout le monde se rejoignait sur le fait qu'en venant ici, on pouvait décompresser, se reconnecter à la nature, etc. Et c'est vrai que même moi, j'ai vécu 2 ans à Lyon, donc venir ici, c'est incroyable.
T'inquiète, tu ne vas pas te reposer longtemps avec ce qui t'attend.
J'ai cru comprendre.
Achille.
Ouais, moi ce que j'ai trouvé surprenant surtout, c'est comment les gens parlaient de leur territoire. On essayait de faire pas trop long quand même, je crois que ça devait durer une demi-heure à peu près par entretien.
Oh, même un peu moins, je crois.
Un peu moins, ouais.
Ouais, bah souvent on dépassait alors. Parce que on sentait qu'avec les gens, on aurait pu passer la matinée entière à discuter du territoire. Et même ce qu'on essayait de faire, c'est que on tournait les discussions pour avoir des angles différents selon les personnes. Et selon chaque personne, on nous a parlé de choses hyper différentes, quoi. Il y a une dame qu'on a croisée devant le temple protestant, elle nous a parlé des religions, elle nous a parlé aussi un peu de la résistance qu'il y avait à l'époque. Une autre nous a parlé de la forêt qu'on coupe, une autre a pu nous parler des châtaignes, il y avait l'apiculteur qui nous parlait de ses abeilles. Il y avait vraiment plein d'angles différents, des jeunes qui parlent aussi d'autres choses, de ce que c'est d'être jeune. C'était vraiment cette différence-là et le fait qu'ils pouvaient en parler super longtemps sans s'arrêter, quoi.
Au-delà du fait de rentrer à l'Institut Agro, est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi vivant? En fait, est-ce que vous aviez des préjugés sur ce territoire, Laïs?
Alors, je ne connaissais pas du tout le territoire, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. À part le jour où j'étais venue à l'entretien, où je suis venue, j'ai fait mon entretien, je suis partie. Sinon, je connaissais absolument rien du tout. Donc, j'avais pas de préjugés. Je savais pas vraiment où je m'en allais. Où j'allais,
ça marche. En tout cas, on a compris l'essence.
Mais du coup, grosse bonne surprise. C'est vraiment cool et tout. Mais fou. Super année.
Eden ?
Alors, me demandez pas pourquoi, mais de base, j'avais pas du tout envie d'aller dans le sud. Genre, j'avais ce préjugé de « Non, le sud, vous êtes beaucoup trop, beaucoup trop avenant, c'est même effrayant. Laissez-moi tranquille. » Mais donc, du coup, ouais, je voulais pas spécialement venir à fond ici, au début. Juste à cause de ce côté un peu sudiste, et ce qui est merveilleux, en fait, qui est incroyable. Mais c'est pas vraiment passé en entretien, pareil, que j'ai pu un peu plus découvrir le territoire. Rien qu'en étant en famille, en se baladant un petit peu, parce qu'évidemment, on est resté un peu. J'ai pu me rendre compte à quel point déjà le paysage est incroyable. Et l'entretien, on a pu découvrir un peu les gens. Et surtout, ce qui était vachement intéressant aussi, c'est qu'ils ont vraiment parlé de nous et pas de la licence, ce qui était cool. Et en discutant un peu avec d'autres gens, pareil, rien qu'au resto, ce genre de choses, tu te rends compte en fait que ces préjugés que j'avais, c'était... Mais c'était n'importe quoi, c'est vraiment genre trop bien. Et donc non, c'est aussi ça qui m'a décidé à aussi venir ici plus que dans une autre licence où j'avais postulé, quoi.
Ouais, j'avoue que je me suis jamais posé la question si on était vraiment dans le sud. Je trouve qu'il y a...
Alors, venant de Nantes, vous êtes dans le sud.
Ouais, pareil.
j'avoue, c'est vrai. Maël ?
Ouais, ben moi pour le coup, je connaissais plus la Lozère du Nord. Parce que mon père est vite fait de là-bas, donc tout ce qui est Gévaudan, etc., je connais.
Parce qu'il y a un territoire tout à fait différent.
Tout à fait différent. C'est pour ça que j'ai bien précisé Lozère du Nord. J'ai cru comprendre qu'on pouvait se faire taper dessus si on confondait les deux. Donc,
ouais, c'est-à-dire que politiquement, il n'y a pas la même ressenti, on va dire.
Bien sûr. Mais du coup, ouais, je connaissais une partie du territoire et dans tous les cas, je me suis dit ça va être cool parce que les Cévennes, c'est en montagne. Même si on n'est pas à 3000 mètres d'altitude.
Non, mais c'est la moyenne montagne.
Mais voilà, ça reste de la moyenne montagne. Donc avec des paysages forcément qui vont être très beaux. Et je suis clairement pas déçu en fait. C'est trop bien.
Achille ?
Bah, moi je suis venu ici, c'est un peu une sorte d'expérience. Genre, moi je viens de Vendée et du coup mon paysage c'est plutôt la mer au départ. Et là, aller vivre dans la moyenne montagne justement, ça m'intrigue de savoir si la mer va pas me manquer, ce genre de choses. Et l'autre expérience c'est de vivre dans une toute petite ville où il y a 2000 habitants parce que j'ai fait un peu de fac à Angers, donc grosse métropole, ça m'a pas plu du tout. J'ai vécu plutôt dans une ville de taille moyenne, la préfecture de Vendée, il y a 50 000 habitants, je pense. Et là, une plus petite ville, je voulais expérimenter le truc parce que je me suis dit, être pas loin de la nature, et en plus c'est magnifique ici, donc ça m'attirait vraiment. Et je pense que je pense que je vais découvrir plein de trucs sur moi-même aussi dans cet endroit. Donc c'est aussi un peu pour ça que je viens.
Et je vous rassure, hein, l'hiver passe très bien et très vite. Donc il y a un fort bassin associatif ici, vous allez le découvrir, ça va être magique. Qu'est-ce que vous attendez de cette année à l'Institut Agro? J'allais encore dire Supagro, parce que ça s'appelait comme ça, il faut vraiment que je m'y fasse. Qu'est-ce que vous attendez de cette année en termes d'études, de connaissances, d'apprentissage? Allez, on change, à toi Achille.
Nous on fait de la coordination de projets en éducation à l'environnement. Et moi ce qui m'intéresse le plus, j'ai envie d'apprendre des nouvelles pédagogies, des nouvelles manières de transmettre les choses vers le public, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, peu importe, mais plein comme ça de grandes lignes directrices pour qu'ils soient vraiment actifs et pour que mon message passe vraiment vers ces personnes-là.
Vous avez rencontré déjà le réel, le réseau à l'éducation à l'environnement, là, qui est juste en dessous de nos voisins et amis qui sont juste en bas. Là.
Ouais, c'est ça. On sait qu'ils sont juste à côté, mais on ne les a pas encore rencontrés. Je crois que ça arrive cette semaine.
On va le faire, ouais.
Ouais, vous allez voir, c'est des gens pareils, passionnés, passionnants. Je les embrasse. Maël, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette année?
Pour le coup, moi, je me sens déjà confirmé en tant qu'animateur nature. Et du coup, pour mon projet professionnel qui serait dans l'utopie, de pouvoir monter ma petite structure et faire des animations un peu de partout dans mon département. Je me suis dit que ce serait toujours intéressant d'avoir ce côté coordination, parce que quand on fait de l'animation nature, bon, c'est assez rapide, et maintenant je sais faire, mais on n'a pas ce côté création de projet sur le long terme avec d'autres acteurs, etc. Donc je me suis dit, ouais, autant faire la licence, comme ça au moins j'ai les compétences qu'il faut pour monter mon projet, et après bah, on verra ce que ça donne.
Eden,
wow, tu me frustres un peu parce que c'est presque exactement ce que j'allais dire. Mais ouais, pareil.
Faites-le ensemble. Hein.
Je veux être animateur plus la nature plus tard. Et puis j'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine. Et aujourd'hui, je peux dire sans trop me vanter que je suis plutôt un bon animateur. Mais j'ai toujours eu le côté de réaliser l'animation. Mais il n'y a jamais eu le côté tout ce qui se passe avant. Création, recherche de budget, de partenaires s'il en faut. Et même coordonner une équipe. Et ça, avec comme objectif plus tard aussi de monter ma petite boîte avec 2-3 potes que j'ai en tête pour faire de l'animation comme ça et partager ce qu'on aime. Il faudrait savoir comment gérer la boîte, comment coordonner des projets, aller chercher des financements à droite, à gauche, enfin, tout ça. Et puis là, je peux commencer un peu à le voir aussi en entreprise, et ça, c'est vachement cool.
Mais... Le nerf de la guerre.
Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est des compétences que je ne maîtrise pas du tout et que je n'ai jamais mis le pied là-dedans. Quoi. Donc, c'est ce que j'espère acquérir aujourd'hui. Quoi.
Je te le souhaite, Laïs.
Bah, moi, un peu pareil que Maël et Eden.
Faites-le à trois.
Ouais, un peu différent quand même. L'animation, ouais, l'animation nature que je trouve super passionnante. J'adore être avec les enfants. On m'a offert un caillou la semaine dernière, j'étais hyper heureuse. Mais j'ai aussi en fait cette volonté du coup de faire de la coordination de projet parce que j'ai envie d'avoir un autre impact qui est autre que celui, on va dire, de la sensibilisation des plus jeunes, même ou même du grand public avec des personnes plus âgées. Mais en gros, mener cette démarche de projet qui fait que on a une trace durable, on va dire, sur un territoire et on va dire de pas seulement passer auprès des gens. De leur dire, voilà, il faut faire attention à ça, vous pouvez faire comme ça, et ensuite les relâcher dans la nature. Mais vraiment avoir une empreinte constante qui puisse faire bouger les choses, on va dire, un petit peu plus radicalement.
Il y aura des stages, hein, je suppose, sur votre année là.
Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le cursus en deux manières différentes. Il y a le cursus par stage. Non, je ne sais plus comment ça. Initial, ils appellent ça.
Initial,
ça. Donc, en gros, où certains vont être en stage de
14 semaines, il me semble. Ouais.
Combien?
14 semaines sur l'année.
C'est à partir de mars. En fait, on part en stage à partir de mars et on a, 4 mois, je crois, de stage.
Ouais, c'est global.
Je suis en initial.
t'es mieux passé, quoi.
Et avec, en plus, autre chose pour compléter, qui sont les projets TUT, donc des projets qui se font en groupe.
C'est des commandes, en fait. Il y a une commande qui est passée auprès de l'Institut sur, du coup, le thème de la coordination de projet et les étudiants doivent y répondre en groupe.
Et vous avez déjà ces projets
Pas encore.
Pas encore. Vous les aurez quand, grosso modo?
Quand les projets études commenceront.
Bah oui, je suis bête.
C'est pas tout de suite. Je crois que les projets études, c'est plutôt vers la fin de l'année. Parce que l'autre manière d'étudier ici, c'est d'être en alternance. Et nous, dans la classe, je dirais qu'il y a 2/3 de personnes qui sont en alternance. Et du coup, l'alternance, la période la plus forte, c'est justement à partir d'avril jusqu'en août. Et du coup, c'est là où ils vont avoir les autres vont avoir les projets tutes et la fin de leur stage.
Ce monde fait marrer la tute.
Oui, c'est tutoré hein, quand même.
C'est un vieux style, petite façon de parler des étudiants. Ouais, on avait ça en GPN aussi. Ouais, super tute. Passionnant.
Et t'en as où dans ton projet de suite? C'est génial. J'adore. Bah en tout cas, je vous souhaite à tous les quatre une excellente année ici à Florac.
Merci.
Vous n'allez
pas vous ennuyer. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler de votre découverte du territoire. Et à très bientôt. La porte est ouverte. Hein, si vous voulez venir faire de la radio, il n'y a pas de problème. Mais si vous trouvez le temps, c'est... Bah non.
J'espère pouvoir trouver le temps. Quoi.
Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on part aux nouveaux ateliers Tufri. Vous l'aurez compris pour la musique, elle est placée sous le signe de la femme. Woman, John Lennon.
For the other half of the sky, woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
John Lennon, Woman. Eh ben allez, on part avec Léo pour une visite guidée au sein de la manufacture Tufri par Myriam et Julien Tufri, justement, à l'occasion de l'inauguration de l'extension. C'était ici, à la rentrée, et c'est parti, on écoute ça.
Mercredi 13 septembre, au cœur de la zone artisanale de Florac, se tenait l'inauguration de l'extension de l'atelier Tufferi. En présence de Carole Delga, la présidente de région, Sophie Pantel, la présidente du département, Henri Coudert, le président de la communauté Gorges-Causses-Cévennes et Flore Théron, la maire de Florac, Julien et Myriam Tufferi nous ont offert une visite guidée accompagnée d'explications sur l'avenir de la manufacture et de l'investissement de plus de 2 millions d'euros tournés vers l'avenir et une nouvelle manière de fabriquer des jeans. Tout commence dans la salle de stockage du tissu.
Ne serait-ce que sur des créations particulières, des sur-mesures, depuis l'idée qu'on a jusqu'à ce qu'on pose sur les fesses ou ce qu'on envoie, tout part de là.
En tout cas, ici, c'est le lieu où on réceptionne en fait toutes nos matières qu'on vient soigneusement sourcer. Donc, on a quand même en tête que le moindre boulot ne fait pas plus d'une journée de voiture pour arriver à Florac. C'est un peu notre façon de voir les choses. Au début, quand on a commencé à l'éliminer, c'était très très compliqué de réussir ce pari parce qu'en France, il n'y avait plus d'activité de tissage, malheureusement. Tout avait fermé. Ça fait repartir des filières autour du chanvre, autour de la laine locale, autour du lin, qui sont en fait des fibres qui sont beaucoup plus mais proches, déjà qui sont cultivées en France, contrairement au coton. Et petit à petit, ce pari-là, on y est arrivé. Et là, en fait, on a 70% de nos toiles qui sont françaises, donc tissées en France. Donc une grosse partie, fait la moitié qui vient de tissage de temps, donc dans le Tarn, à Saint-Afrique les Montagnes. Et l'autre partie qui vient des Vosges, qui sont restés quand même un gros territoire industriel sur le tissage, qui ont passé aussi des années difficiles et qui ont gardé les outils industriels. Et après, le reste vient d'Italie.
C'est-à-dire qu'évidemment, on y reviendra. Nous, à Myriam, on est juste des passeurs dans la boîte. Notre rôle, c'est la rendre parfaite dans 30 ans. Et on s'est posé la question, est-ce que dans 30 ans, on pourra encore se permettre de faire voler du coton et des toiles qui viennent de l'autre bout de la planète? La question est ouverte. Nous, on s'en est fait une réponse, c'est non. Nous, on n'a rien qui nous coûte à moins de 12-13 euros. Sachant que pour fabriquer un jean, c'est 1,20 m, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à ouvrir la palette, ça vient des Vosges là, derrière, que déjà le jean nous coûte quasiment 18 euros hors taxe de matière. Aujourd'hui, si vous êtes un peu bon, sur le web, ce soir, à 18 euros, vous trouvez deux jeans livrés chez vous demain. Ouais. Voilà, vous voyez le poids de tout ça. C'est pour ça qu'on a adapté aussi tout ce système de vente et tout ce qui s'ensuit. Donc de la toile, ça passe à la découpe. Alors hop, on va vers là-bas.
On arrive ensuite dans l'atelier de découpe où chaque pièce de jean est découpée en compagnie de Jonathan pour une démonstration.
C'est qu'il va venir disposer donc les rouleaux de toile que vous avez vus dans le garage sur cette belle machine qui s'appelle une matelasseuse. Et donc la matelasseuse va venir en fait, avec l'aide de Jonathan bien sûr, dérouler en fait les feuillets au fur et à mesure, et puis il coupe à chaque fois, et en gros au fur et à mesure le matelas se forme. Et au-dessus de ce matelas, on va venir apposer le tracé qu'on appelle. Donc là, vous voyez, c'est un tracé numérique. Donc si vous étiez venu ici il y a à peu près 4 ans, ouais, c'était pas du papier numérique, des formes numériques, vous aurez vu, mais des cartons en fait vraiment positionnés sur les matelas. Et ensuite, ben, Jonathan va venir couper délicatement avec dextérité. Donc il va passer sur les différents contours. Donc, il y a plein de... C'est très minutieux parce qu'il y a des crans de couture, il y a du pointage. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire aussi. Jonathan a été formé à ça en interne parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Il y a vraiment, c'est des métiers qui avaient aussi disparu. Donc ça, pareil, formation interne qu'on fait ici. Donc en gros, il y a besoin de 15 à 17 pièces vraiment de tissu, de matière. Et si on rajoute tout ce qui est accessoires, donc métallerie, boutons, étiquettes, etc., on arrive à 44 pièces.
On a une grosse particularité à la maison que tu fais. Il y a peu de maisons, françaises, même internationales, qui font ça. C'est-à-dire qu'on est parfait, enfin, on est tout intégré. On est une marque fabricante. C'est-à-dire qu'on va fabriquer les produits que l'on vend. Et on va vendre les produits que l'on fabrique. J'entends le bruit des machines là-bas, très loin, un peu à l'est. Sont en train de fabriquer les vêtements qu'on portera l'été prochain. Là, en ce moment. Même, c'est presque fini. Qui sait, qui a la boule magique pour se dire ben, on connaîtra le nombre de tailles, le nombre de couleurs, le nombre de tout ça? Personne. La solution depuis 40 ans, c'est de se dire, bon, on s'en fout, ça coûte pas cher de faire fabriquer là-bas. On va faire fabriquer en grande quantité, il y aura des grands containers qui vont revenir. Si on ne vend pas, il y aura des soldes, il y aura des ventes privées, il y aura des déstockages, et il y aura peut-être même de la destruction. Nous, en fait, et c'est l'incroyable travail que fait Myriam et toute l'équipe de la supply, c'est qu'on va en permanence adapter la prod, les lancements de prod, avec notre besoin de stock et de production. Ça oblige à faire plein de métiers, mais c'est surtout qu'on répond à un premier magistral enjeu de la mode, qui est quand même le deuxième ou troisième plus gros pollueur mondial, c'est de ne pas surproduire des produits qu'on ne sera pas sûr de vendre.
On passe ensuite à l'atelier de couture.
Tout ça, on aurait pu le construire pour à peu près moitié moins d'investissement. Je regarde Mathilde pour avoir l'approbation de Mathilde, mais voire même encore moins cher que ça. On fait un bardage métallique, moyennement bien isolé, on va très vite, on met des fils longues de machines à coudre les unes derrière les autres, et à la fin on sort des ateliers qui produisent des pantalons. Quoi. Encore une fois, on en parlera de nouveau ce soir. Enfin, est-ce que c'est de ça dont on a envie? Et est-ce que c'est avec cette posture du hangar un peu lugubre au fin fond du zone industriel qu'on va redorer les lettres de noblesse du Made in France? Évidemment, la question est ouverte. Vous avez compris la réponse qu'on y a fait, c'est évidemment non. Donc en fait, on a poussé le curseur... on a quand même poussé le curseur très loin, notamment de l'investissement, pour se dire en fait, l'atelier de demain ne sera surtout pas celui de l'après-guerre. Donc, gros paquet d'investissements. Après, Mathilde, tu pourras aussi expliquer, mais... pareil, chauffage par le sol, refroidissement par le sol. Encore une fois, tout ça coûte très cher, mais on est assis 8 heures par jour, on est assis à 60 cm du sol. Ça peut paraître être une évidence. Gros boulot sur l'insonorisation, gros boulot sur la... les flux thermiques, la luminosité, voilà, les ourdis bois qui sont, c'est un gel 20 bois à amande, donc on présente plus ici. Je ne sais pas s'il y a des économistes du jean qui veulent nous faire de la concurrence demain. Alors si c'est ça, ne faites surtout pas ce qu'on fait pour gagner l'argent très vite. C'est pas la bonne solution. Si vous voulez aller très vite, le jean c'est 80 étapes de travail. Normalement, si vous voulez être très bon, vous faites 80 postes de travail, vous formez une personne à un poste, vous empilez les postes, et on sort du pantalon très vite. Encore une fois, qui veut bosser dans ça? Personne, et surtout pas nous. Donc en gros, c'est les quelques mots que citera Clem si elle le veut. On a 2 ans et demi de formation à l'interne, et on forme à l'entièreté de la polyvalence des gestes. Alors, première anecdote un peu macabre, je m'en excuse, mais elle est lourde de sens. Toutes les personnes qu'on embauche et qu'on forme, on leur dit si on disparaît tous, sauf vous, vous reprenez l'atelier Tuféry pour le siècle à venir. Normalement, quand vous montez un atelier, vous le dimensionnez pour faire un jean 5 poches bien réglé pour un type de matière, et presque cet atelier ne passe que ça. Il y a 2 autres ateliers en France qui dans sous-traitance qui font du jean. Ils sont réglés pour un type de jean, point barre. C'est ce qui se passe en énorme volume à l'autre bout de la planète également. Donc là, on va sans cesse, et c'est là aussi, je le dis avec, hélas, beaucoup d'aplomb devant l'équipe, c'est ce qu'on demande, l'excellence qu'on demande à l'équipe, c'est que dès qu'il y a comme on travaille toujours en petite série pour être sûr de ne pas amener la monotonie dans l'atelier, en fait, ça oblige à chaque fois à rechanger son geste. Comme dit Clem, c'est que voilà, on est sur les Augustins, qui est une toile plutôt fine avec un chouïa d'élastane. Ah, ça enchaîne après sur le Georges, qui est un gros en toile bien dur, donc toutes les machines vont rechanger avec des techniques différentes. Voilà, c'est chouette. Si on fait ça, c'est juste, c'est pas qu'on aime se faire mal. C'est juste qu'on a identifié cette formule pour se dire, au temps long, pour redonner ces lettres de noblesse à l'artisanat, au fait de s'asseoir dans un atelier textile, que ce soit pas juste l'exutoire des personnes dont on ne sait pas quoi faire. Là, en fait, on vient s'émanciper pour apporter de l'excellence plutôt que d'être opérateur de chaîne.
Et pour finir cette visite guidée, on passe dans les dernières pièces, la salle de stockage des jeans finis et de la logistique.
Il faut mettre ça quelque part.
C'est ça.
Ouais, il faut mettre ça quelque part. Et puis, il faut surtout avoir la supply chain qui soit bonne pour la matière, les fils, surtout qu'on a quand même des démarches matières assez particulières. Donc, c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est assez difficile quand même, hein, le challenge qu'on s'inflige, hein, parce que... Nous, on est toujours tiraillés. Si l'enjeu, c'était juste vendre des pantalons en masse, on n'aurait pas forcément fait ça. C'est-à-dire qu'on serait allé sur des choses beaucoup plus faciles. Encore une fois, si on avait une vision stratégique de se dire on construit l'entreprise pour la vendre à un super fonds du luxe, comme ils sont tous venus dans 5 ans, on aurait peut-être fait des choix un peu différents. Là, on est plutôt sur cet engagement sur le très long terme. Et ça, c'est particulier aussi, c'est que normalement, personne ne fait ça. C'est-à-dire que presque la marque finale ne voit jamais ses produits et surtout ne s'occupe pas de sa logistique. Donc encore une fois, marque fabricante parfaitement intégrée, depuis la direction artistique, ce qu'on veut faire jusqu'à ce qu'on vend, c'est là, c'est ici, c'est chez nous. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'on a vraiment aussi une notion de service. Car voilà, moi le Floraquois, depuis 28 générations, hein, je vous dis ça avec un sourire de fierté ou de je sais pas quoi. C'est que ici, depuis notre vallée floraquoise, on envoie des jeans partout sur la planète. Et ça, c'est génial. Et encore une fois, tout ce qui faisait passer mon père et mes oncles pour des marginaux des années 2000 à être le dernier paire de mains à fabriquer du jean en France, tout ce qui les faisait passer pour des gros bofs, hein, la Lozère, les Cévennes, le monde paysan, le loin de tout, le à côté de rien, le Femen, le machin, il suffit juste de le raconter en fait pour que ça devienne des arguments de qualité. Voilà, je préfère me dire qu'on est en train de retrouver le bon sens. Voilà, je préfère me dire ça. Et ce qui est top, c'est qu'on envoie quand même, on a des grosses démarches à l'export là, qui sont en train de se mettre en place. On a été chaleureusement accueillis par cette magnifique maison de la région à New York. Merci encore. Y a plein de choses et c'est là où c'est chouette. C'est qu'aujourd'hui, on envoie des jeans voilà, partout. Je ne vous dis pas qu'on envoie des palettes de jeans partout, mais on envoie des jeans partout. Et ce qui est assez chouette, quand M. Davis du fin fond de Melbourne achète un jean parce qu'il veut vraiment soit du savoir-faire français, soit une profonde écologie, sa demande arrive là. Et surtout, c'est 335 $ australiens, arrive là. Ça, c'est génial. Ça veut dire que dans notre chaîne de valeur, parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est génial, hein, c'est super, ça paraît être une évidence. Sauf que quand on voit tout le financement qu'il faut et les coûts de revient que ça impose, de suite, ça refroidit quand même beaucoup d'opportunités économiques. Dans la mesure qu'aujourd'hui, si on veut gagner beaucoup d'argent très vite, on baisse le coût de revient. le maximum. Voilà, je ne vais pas vous refaire un cours sur la mondialisation. On dit oui à tous des réseaux de distribution qui captent une énorme marge et explosion des volumes. Le vieux commerçant, enfin le vieux commerçant, la vieille famille commerçant de laquelle je suis issu, dit apparemment depuis des décennies, dans le commerce, il vaut mieux vendre 10 fois moins, mais 10 fois mieux. Je trouve que cet adage, il est bon pour l'économie, mais il est surtout bon pour l'écologie. Enfin, Myriam, on se pose toujours les questions, on a plein d'ambitions. Hein. C'est pas... Ça fait très idéal, tout ce qu'on vous dit là. Presque, je pense qu'on frise avec l'utopie. Hein. C'est une vraie réalité. Enfin, c'est une vraie belle réalité. Et tous les jours, avec Myriam, on doit réfléchir et on n'a pas trouvé la formule magique pour faire beaucoup de volume très vite hein, en ne transgressant en rien nos valeurs écologiques et humaines. Donc encore une fois, plutôt que d'aller très vite, on préfère aller très loin. Donc voilà, on est parti dans ça et c'est pour ça que c'est juste fierté maximale de vous accueillir là-dedans parce que pour continuer dans notre vision entrepreneuriale, on avait besoin de ça. Le bâtiment d'à côté, il est entièrement couvert de panneaux photovoltaïques. Alors ça aussi, c'est pas un grand scoop hein, quand on parle de photovoltaïque en 2023. On est assez fiers avec Myriam parce que bon, on va... l'hiver sera abordé avec un grand sourire, c'est qu'on a... on est en autonomie énergétique. Donc entre le travail qu'on a fait sur le renouvellement de toutes les technologies de machines, le travail qu'on a fait sur l'isolement des locaux et surtout le travail qu'on a fait sur toute l'ergonomie des lieux et des isolations, on aura notre neutralité énergétique, donc c'est super.
On verra cet hiver.
Réponse, voilà, cet hiver. Et par les temps qui courent, voilà, je nous souhaite un monde un peu plus serein dans les années à venir, mais voilà.
La visite guidée est donc terminée. On comprend donc mieux en quoi cet investissement a servi. C'est l'aboutissement de la concrétisation d'un projet familial d'envergure et espérons une nouvelle goutte d'huile dans les rouages d'une industrie de Made in France.
Quel poète, Léo. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en bien. Restez bien sur Bartas. On n'y est pas trop mal. On se quitte avec Live and Let Die, Paul McCartney. Excellente journée sur Bartas. À très vite. Ciao. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die.